Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После 1 и 2 прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела аудирования перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего А, Ф и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только 1 раз. В задании есть 1 лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Faut-il supprimer les devoirs scolaires?
Speaker A.
À l'échelle mondiale, les écoliers français figurent parmi ceux qui passent le plus de temps à l'école, et ceci dès le plus jeune âge. À ces longues journées passées sur les bancs de l'école s'ajoutent les devoirs maison qui ne leur laissent plus de temps pour s'épanouir dans les activités extrascolaires. Pourtant, les devoirs maison sont nécessaires pour mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours des leçons. Alors, faut-il supprimer les devoirs du soir?
Speaker B.
À mon sens, il faut garder les devoirs scolaires, mais ceci devrait se faire exclusivement à l'école, après les leçons, avec des professeurs qui seraient là pour encadrer les élèves, répondre à leurs questions et les aider à progresser en cas de difficulté. Je trouve que tous les enfants ne sont pas capables de faire les devoirs seuls. Tous les parents n'ont pas le temps, ni parfois la capacité ou les connaissances pour expliquer chaque devoir. Donc l'enfant doit réviser le matériel à l'école.
Speaker C. Je trouve que les devoirs maison, c'est un excellent moyen de revoir les leçons du jour. À mon avis, il ne faut surtout pas les supprimer, parce que les élèves risquent d'oublier encore plus vite tout ce qu'ils ont pu apprendre en classe. Donc, un peu de travail à la maison pour réviser les cours n'a jamais tué personne. En consacrant 1 heure par jour aux devoirs maison, il reste encore assez de temps aux écoliers pour jouer, faire du sport ou passer du temps avec les copains. Speaker D.
Il me semble qu'il y a des devoirs qu'on ne peut pas supprimer. Apprendre un poème par cœur, faire des travaux de recherche, écrire une composition. Tout cela est difficile à faire en classe. En plus, un des objectifs de l'école est d'apprendre aux enfants à travailler de façon autonome. Et les devoirs maison y jouent un rôle important. Cela permet aussi aux parents de suivre leur enfant, ce qui est crucial car la réussite d'un élève en difficulté tient beaucoup de l'activité des parents.
Speaker E.
Souvent, les enfants attendent le retour des parents pour leur demander de l'aide dans les devoirs maison. Et les parents, au bout de 8 heures de boulot et 2 heures de transport, en revenant à la maison, ne rêvent que de ça. Je ne comprends pas comment un enfant qui est à l'école de 8h30 à 16h30 ait encore besoin de travailler à la maison. Je parle surtout des élèves de l'école primaire qui passent leur soirée à faire leurs devoirs. C'est inadmissible.
Speaker F.
Je suis en seconde et croyez-moi, quand je rentre de l'école, je n'ai pas fini de travailler. Je passe mes soirées à faire mes devoirs. Et ces vacances de Noël en sont la preuve. J'ai tellement de devoirs qu'à part fêter Noël et le Nouvel An, je vais passer mon temps à réviser. J'en ai marre à la fin. Je n'ai plus de temps libre. Je veux bien des devoirs, mais pas trop. Nous avons 12 années scolaires et à chaque jour, les professeurs nous en mettent de plus en plus dans la tête.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois.
Faut-il supprimer les devoirs scolaires?
Speaker A.
À l'échelle mondiale, les écoliers français figurent parmi ceux qui passent le plus de temps à l'école, et ceci dès le plus jeune âge. Ah, ces longues journées passées sur les bancs de l'école, s'ajoutent les devoirs maison qui ne leur laissent plus de temps pour s'épanouir dans les activités extrascolaires. Pourtant, les devoirs maison sont nécessaires pour mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours des leçons. Alors, faut-il supprimer les devoirs du soir?
Speaker B.
À mon sens, il faut garder les devoirs scolaires, mais ceci devrait se faire exclusivement à l'école, après les leçons, avec des professeurs qui seraient là pour encadrer les élèves, répondre à leurs questions et les aider à progresser en cas de difficulté. Je trouve que tous les enfants ne sont pas capables de faire les devoirs seuls. Tous les parents n'ont pas le temps, ni parfois la capacité ou les connaissances pour expliquer chaque devoir. Donc l'enfant doit réviser le matériel à l'école.
Speaker C. Je trouve que les devoirs maison, c'est un excellent moyen de revoir les leçons du jour. À mon avis, il ne faut surtout pas les supprimer, parce que les élèves risquent d'oublier encore plus vite tout ce qu'ils ont pu apprendre en classe. Donc, un peu de travail à la maison pour réviser les cours n'a jamais tué personne. En consacrant une heure par jour aux devoirs maison, il reste encore assez de temps aux écoliers pour jouer, faire du sport ou passer du temps avec les copains. Speaker D.
Il me semble qu'il y a des devoirs qu'on ne peut pas supprimer. Apprendre un poème par cœur, faire des travaux de recherche, écrire une composition. Tout cela est difficile à faire en classe. En plus, un des objectifs de l'école est d'apprendre aux enfants à travailler de façon autonome. Et les devoirs maison y jouent un rôle important. Cela permet aussi aux parents de suivre leur enfant, ce qui est crucial car la réussite d'un élève en difficulté tient beaucoup de l'activité des parents.
Speaker E.
Souvent, les enfants attendent le retour des parents pour leur demander de l'aide dans les devoirs maison. Et les parents, au bout de 8 heures de boulot et 2 heures de transport, en revenant à la maison, ne rêvent que de ça. Je ne comprends pas comment un enfant qui est à l'école de 8h30 à 16h30 ait encore besoin de travailler à la maison. Je parle surtout des élèves de l'école primaire qui passent leur soirée à faire leurs devoirs. C'est inadmissible.
Speaker F.
Je suis en seconde et croyez-moi, quand je rentre de l'école, je n'ai pas fini de travailler. Je passe mes soirées à faire mes devoirs. Et ces vacances de Noël en sont la preuve. J'ai tellement de devoirs qu'à part fêter Noël et le Nouvel An, je vais passer mon temps à réviser. J'en ai marre à la fin. Je n'ai plus de temps libre. Je veux bien des devoirs, mais pas trop. Nous avons 12 années scolaires et à chaque jour, les professeurs nous en mettent de plus en plus dans la tête.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Ж соответствуют содержанию текста 1, vrai, какие не соответствуют 2, faux и о чем в тексте не сказано. То есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. Aucune information. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
On fait du sport.
Tiens, Jacqueline, comment vas-tu? On ne te voit plus au club de sport. Tu ne fais plus de sport? Qu'est-ce que tu deviens?
Bonjour, Eric. En effet, cette année, j'ai envie d'essayer quelque chose de plus tonique, de bouger un peu plus. Donc je fais de l'urban training.
J'ai entendu parler de ce nouveau sport. Si je ne me trompe pas, ça se pratique dans la rue, en petits groupes et avec un coach. C'est bien ça, non ?
Oui, on utilise ce qui se trouve autour de nous pour faire nos exercices. C'est amusant et dynamique à la fois.
Alors, c'est réservé à des sportifs confirmés ?
Non, pas du tout. Parce qu'au fait, il y a plusieurs niveaux, y compris pour les débutants. Pour le moment, je fais ça dans un groupe. C'est pratique. L'animateur nous montre les bons gestes et on voit ce qui convient à chacun.
Il faut des vêtements particuliers ?
Non, pas de tenue spéciale. Il faut surtout des chaussures adaptées pour courir et des vêtements qui permettent de faire de grands gestes. Il faut aussi des gants pour protéger les mains. Et puis, on recommande d'avoir une ceinture pour accrocher une bouteille d'eau. Il faut absolument pouvoir se réhydrater à tout moment.
Et qu'est-ce que vous faites exactement ?
On commence par l'échauffement, pendant 10 minutes environ. L'échauffement est très important. Ensuite, ce sont les exercices proprement dits.
Comme quoi, par exemple ?
Toutes sortes d'exercices sur des marches, sur un banc. S'il y a des escalators, on monte à pied le plus vite possible.
Eh bien, c'est tonique. Et tout ça pendant une heure ?
Oui, et on finit par un moment de détente pour retrouver son rythme cardiaque en douceur.
Là, tu pourrais faire du stretching, par exemple. Ça n'a pas l'air mal, je trouve.
Ah oui, à condition qu'on le fasse à son rythme. Et ce qui est formidable, c'est que tu redécouvres ta ville.
Ça m'a l'air assez sympa. Tu crois que je peux essayer, moi aussi ?
Pourquoi pas ? Tu peux nous rejoindre samedi à 10h à l'entrée du jardin public.
Oui. Alors, je vais venir.
À ce samedi, alors ?
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
On fait du sport.
Tiens, Jacqueline, comment vas-tu ? On ne te voit plus au club de sport. Tu ne fais plus de sport ? Qu'est-ce que tu deviens ?
Bonjour, Eric. En effet, cette année, j'ai envie d'essayer quelque chose de plus tonique, de bouger un peu plus. Donc, je fais de l'urban training.
J'ai entendu parler de ce nouveau sport. Si je ne me trompe pas, ça se pratique dans la rue, en petits groupes et avec un coach. C'est bien ça, non ?
Oui, on utilise ce qui se trouve autour de nous pour faire nos exercices. C'est amusant et dynamique à la fois.
Alors, c'est réservé à des sportifs confirmés ?
Non, pas du tout. Parce qu'au fait, il y a plusieurs niveaux, y compris pour les débutants. Pour le moment, je fais ça dans un groupe. C'est pratique. L'animateur nous montre les bons gestes et on voit ce qui convient à chacun.
Il faut des vêtements particuliers ?
Non, pas de tenue spéciale. Il faut surtout des chaussures adaptées pour courir et des vêtements qui permettent de faire de grands gestes. Il faut aussi des gants pour protéger les mains. Et puis, on recommande d'avoir une ceinture pour accrocher une bouteille d'eau. Il faut absolument pouvoir se réhydrater à tout moment.
Et qu'est-ce que vous faites exactement ?
On commence par l'échauffement, pendant 10 minutes environ. L'échauffement est très important. Ensuite, ce sont les exercices proprement dits.
Comme quoi, par exemple ?
Toutes sortes d'exercices sur des marches, sur un banc. S'il y a des escalators, on monte à pied le plus vite possible.
Eh bien, c'est tonique. Et tout ça pendant une heure ?
Oui, et on finit par un moment de détente pour retrouver son rythme cardiaque en douceur.
Là, tu pourrais faire du stretching, par exemple. Ça n'a pas l'air mal, je trouve.
Ah oui, à condition qu'on le fasse à son rythme. Et ce qui est formidable, c'est que tu redécouvres ta ville.
Ça m'a l'air assez sympa. Tu crois que je peux essayer, moi aussi ?
Pourquoi pas ? Tu peux nous rejoindre samedi à 10h à l'entrée du jardin public.
Oui. Alors, je vais venir.
À ce samedi, alors ?
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 3.9. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Interview. Sophie de Mullenheim sur FBI et les 9 vies du chat.
Dans notre studio aujourd'hui, Sophie de Mullenheim, écrivain qui écrit des livres pour les enfants. Elle vient de publier FBI et les 9 vies du chat. Comment avez-vous trouvé l'idée de ce livre ?
J'avais depuis longtemps l'idée d'écrire un livre avec pour personnage principal un enquêteur historique. Je trouvais amusante la possibilité de voyager dans le temps pour élucider des affaires. Puis mon éditeur m'a parlé des chats qui avaient 9 vies. J'ai donc mis ensemble ces deux éléments pour aboutir à ce premier roman.
Comment vous est venue l'idée d'un enquêteur historique qui voyage dans le temps ?
J'ai toujours sur moi de petits carnets sur lesquels je griffonne des idées. Je ne me souviens plus quand l'histoire de l'enquêteur historique m'est venue. Peut-être un matin en me réveillant ? Parfois les idées arrivent sans prévenir.
Quels sont les passages que vous avez préféré écrire ?
De manière générale, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Je me régalais d'avance en imaginant la suite de certains passages. Par exemple, j'ai su dès le début que Marilyn entrerait dans le Wart comme s'il s'agissait d'une douche. J'avais la scène dans la tête presque dès les premières lignes. Le passage sur la méduse m'a demandé une attention toute particulière. Mon mari qui me relisait aime énormément le bateau. Je voulais qu'il ait vraiment l'impression d'être à bord de ce navire.
Que retenez-vous de votre première expérience dans l'écriture pour adolescents ? Est-ce différent des plus jeunes ? Travaille-t-on de la même manière ?
Ce premier roman a été une expérience formidable et j'espère ne pas m'en tenir là. Écrire pour les adolescents change beaucoup de l'écriture pour les plus jeunes car... il y a beaucoup plus de textes. J'avais l'habitude d'inventer de petits contes pour enfants. Avec ce roman, il fallait écrire 100 fois plus de mots. Le vocabulaire diffère aussi. Il est plus adulte, plus recherché. Quant à la façon de travailler, cela ne change pas. Tout dépend toujours de l'inspiration.
Appréciez-vous plus les romans policiers que les autres livres ?
Curieusement, je lis peu de romans policiers. En revanche, lorsque j'étais adolescente, je les dévorais. J'ai voulu écrire un livre que j'aurais aimé plus jeune. Un livre où il y ait de l'action, du suspense et surtout... pas de temps mort durant lesquels le lecteur risquerait de s'ennuyer.
Quels sont les aspects que vous préférez chez votre personnage ?
J'aime le caractère un peu débrouillard de mon personnage. Il se retrouve parfois dans des situations drôles et ça me plaît. J'aime les personnes qui savent prendre des décisions rapidement.
D'autres histoires sont-elles prévues ?
Je réfléchis actuellement à un autre roman. Très différent de celui-ci et à la fois très proche aussi. L'histoire sera très éloignée de celle du FBI, mais mon écriture restera la même et le rythme du livre aussi. Je souhaite garder certains ingrédients qui me paraissent nécessaires au bon fonctionnement du livre.
Que pensez-vous de la théorie des 9 vies du chat ?
Depuis des générations, la croyance populaire prétend que les chats ont 9 vies. Pour ma part, je n'ai pas de chat et je n'ai jamais regardé de près leurs griffes.
Quelle est la part de vérité historique dans les événements que vous avez décrits ?
En dehors de la façon dont Perrault trouva le titre de son conte, tous les événements historiques que je raconte sont vrais.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Interview. Sophie de Mullenheim sur FBI et les 9 vies du chat.
Dans notre studio aujourd'hui, Sophie de Mühlenheim, écrivain qui écrit des livres pour les enfants. Elle vient de publier FBI et les 9 vies du chat. Comment avez-vous trouvé l'idée de ce livre ?
J'avais depuis longtemps l'idée d'écrire un livre avec pour personnage principal un enquêteur historique. Je trouvais amusante la possibilité de voyager dans le temps pour élucider des affaires. Puis mon éditeur m'a parlé des chats qui avaient 9 vies. J'ai donc mis ensemble ces deux éléments pour aboutir à ce premier roman.
Comment vous est venue l'idée d'un enquêteur historique qui voyage dans le temps ?
J'ai toujours sur moi de petits carnets sur lesquels je griffonne des idées. Je ne me souviens plus quand l'histoire de l'enquêteur historique m'est venue. Peut-être un matin en me réveillant ? Parfois les idées arrivent sans prévenir.
Quels sont les passages que vous avez préféré écrire ?
De manière générale, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Je me régalais d'avance en imaginant la suite de certains passages. Par exemple, j'ai su dès le début que Marilyn entrerait dans le Wart comme s'il s'agissait d'une douche. J'avais la scène dans la tête presque dès les premières lignes. Le passage sur la méduse m'a demandé une attention toute particulière. Mon mari, qui me relisait, aime énormément le bateau. Je voulais qu'il ait vraiment l'impression d'être à bord de ce navire.
Que retenez-vous de votre première expérience dans l'écriture pour adolescents ? Est-ce différent des plus jeunes ? Travaille-t-on de la même manière ?
Ce premier roman a été une expérience formidable et j'espère ne pas m'en tenir là. Écrire pour les adolescents change beaucoup de l'écriture pour les plus jeunes car... il y a beaucoup plus de textes. J'avais l'habitude d'inventer de petits contes pour enfants. Avec ce roman, il fallait écrire 100 fois plus de mots. Le vocabulaire diffère aussi. Il est plus adulte, plus recherché. Quant à la façon de travailler, cela ne change pas. Tout dépend toujours de l'inspiration.
Appréciez-vous plus les romans policiers que les autres livres ?
Curieusement, je lis peu de romans policiers. En revanche, lorsque j'étais adolescente, je les dévorais. J'ai voulu écrire un livre que j'aurais aimé plus jeune. Un livre où il y ait de l'action, du suspense et surtout, pas de temps mort durant lesquels le lecteur risquerait de s'ennuyer.
Quels sont les aspects que vous préférez chez votre personnage ?
J'aime le caractère un peu débrouillard de mon personnage. Il se retrouve parfois dans des situations drôles et ça me plaît. J'aime les personnes qui savent prendre des décisions rapidement.
D'autres histoires sont-elles prévues ?
Je réfléchis actuellement à un autre roman. Très différent de celui-ci et à la fois très proche aussi. L'histoire sera très éloignée de celle du FBI, mais mon écriture restera la même et le rythme du livre aussi. Je souhaite garder certains ingrédients qui me paraissent nécessaires au bon fonctionnement du livre.
Que pensez-vous de la théorie des 9 vies du chat ?
Depuis des générations, la croyance populaire prétend que les chats ont 9 vies. Pour ma part, je n'ai pas de chat et je n'ai jamais regardé de près leurs griffes.
Quelle est la part de vérité historique dans les événements que vous avez décrits ?
En dehors de la façon dont Perrault trouva le titre de son conte, tous les événements historiques que je raconte sont vrais.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Votre épreuve de compréhension orale est terminée.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.